Grand Angle, les reportages grand format du magazine QI. Ligne de vie, un reportage de Morgane Kilikine et Jean-Christophe Attard.
L'immeuble était vivant, animé, la terrasse était toujours un lieu de vie, on faisait des tas de trucs. Quand les femmes ont commencé à travailler, les portes sont fermées.
Avant, vous entendez les gosses jouer, crier, chanter, bon. Les gens aussi chantaient, ou les maçons sifflaient sur leurs échelles. Il y avait une ambiance joviale, tandis que maintenant, c'est bientôt le monde du silence.
À 24 ans, je me suis mariée. Toujours avec un paysan. Et après, c'était différent. On travaillait dur, ça, c'est certain. C'était la misère noire. Ceux qui sont nés dans les années 20, nous avons été la pire des générations.
Nous, c'est dans la difficulté qu'on crée notre bonheur. Surtout dans le rapport garçon-fille. C'était très intense. Quand on se retrouvait, c'est la conjonction de quelque chose de magnifique.
Que diraient les anciens du monde d'aujourd'hui et de celui de leur enfance et de l'amour et du bonheur, de la vie en général? Et s'il suffisait d'aller le leur demander? Donner la parole aux anciens, c'est ouvrir un livre, un gros bouquin épais qui tient tout à la fois du roman, de la chronique, de la biographie et de la fresque historique. Et à mesure que se déroulent les chapitres, c'est voir la petite histoire se mélanger à la grande, les anecdotes côtoyer les grands faits, le micro et le macro marcher côte à côte. Aujourd'hui, ils frôlent ou tutoient les 100 ans, et ils ont tout vu, tout vécu. Les pires conflits armés et les années folles, l'explosion de l'industrie et la désertification des campagnes, la transition aussi rapide que violente d'une époque à une autre. Génération postée entre l'ancien et le nouveau monde, témoins et observateurs d'un siècle charnière, ils sont les derniers à pouvoir raconter ce que les plus jeunes ne font qu'imaginer et idéaliser. Au crépuscule d'une vie longue et bien remplie, ils posent un regard sur le passé, le leur et celui de leur époque. Une analyse sans concession ni complaisance, pas plus qu'ils n'en ont d'ailleurs pour la société d'aujourd'hui. Dans ce premier épisode, nous sommes allés à la rencontre de Santa Pietre, une cortenaise pure souche comme elle aime à se définir. Un petit bout de femme de 92 ans, à l'esprit alerte et sans langue de bois.
Moi je m'appelle Santa, Pietri Santa, Maria Zante, 92 ans et quelques mois. Pure cortenaise, pure jus. Je suis de la haute ville, en dessous de la citadelle, à côté du musée. La maison, elle n'a pas tellement changé. L'immeuble est toujours vieux. Il devrait être avali d'ailleurs. Il est vieux, vieux, vieux. Il a 350 ans au moins. Et il est situé à côté du Palais National. Quand j'étais petite, l'immeuble était un... La terrasse était un lieu de vie et l'immeuble était vivant. Nous, on rentrait chez les gens. Et on les connaissait tous. Ils nous offraient un gâteau, un bout de pain, n'importe quoi, voilà. Mais on rentrait tout le temps dans les maisons. Les portes étaient ouvertes. C'était un lieu de vie et la terrasse aussi était un lieu de vie. On y faisait plein de choses sur cette terrasse. Nous, les enfants, on y jouait. Et les gens de l'immeuble l'occupaient occasionnellement pour faire des petits travaux. Entre autres, un travail qui a disparu. Je ne sais pas si vous l'avez connu. À l'époque, dans les lits, il n'y avait pas de l'opilot, il y avait des matelas de laine. Une fois par an, il fallait refaire ces matelas. Pour nous, on était enfants, mais c'était de la réjouissance. Tous les gens de l'immeuble, les femmes, chacun s'entraidait, elle venait aider la voisine, parce qu'il fallait être plusieurs pour faire ça. Voilà. Et ainsi de suite, chacun remplissait ce rôle. À tour de rôle, elle battait d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Et toute la poussière de la laine tombait à travers ce machin. L'immeuble était une espèce de ruche vivante. Mais cette période, elle a pris fin. Quand les femmes ont commencé à travailler, le matin, elles étaient obligées de fermer leurs portes. Et les portes sont fermées. C'est l'envers du décor du début du féminisme. Avant la guerre, moi j'en ai connu une ou deux qui travaillaient. C'était rare. Donc moi je pense que elles sont passées par l'école, elles ont devenu institutrices, professeurs, médecins, tout ça, après la guerre, surtout après la guerre. Je crois que j'étais féministe à l'âge de 5 ans, moi. Parce que j'avais que des grands frères et un cousin germain qui était élevé chez ma mère. Et tous ces garçons étaient des pachas. Et moi, je faisais les corvées. Et donc, moi, toute petite, je me rebellais. Je disais, mais pourquoi eux, ils ne font pas? Pourquoi ils ne mettent pas la vaisselle? Pourquoi on leur demande? Ma mère ne leur demandait pas, c'était des garçons. Elle était élevée avec le culte du mâle, qu'est-ce que je vous dis. C'était, elle ne se rendait même pas compte. Mais moi qui allais à l'école comme eux, qui travaillais comme eux, qui travaillais mieux qu'eux, je me rebellais. Donc c'est pour ça que j'ai eu des débuts de féminisme très tôt.
Santa Pietre fait partie de cette génération qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Quel regard porte-t-elle sur cette période ?
La guerre, pour moi, c'est un souvenir horrible. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain, connaître la guerre. La guerre, c'est-à-dire que cette société que vous connaissez, qui a ses règles, ses traditions, tout ça fout le camp. Il n'y a plus rien. Tout éclate. Ma mère était femme au foyer. Mon père est mort pendant la guerre. Ma mère est restée seule avec 4 enfants. Hein. Je sais pas, j'ai même pas réalisé à l'époque comment elle pouvait faire, mais enfin, on s'en est tiré. Et c'est moi qui m'occupais des tickets d'alimentation. Parce qu'elle ne les sortait pas. Mes frères, ils s'en occupaient pas. Et moi, j'étais chargée de prendre... on avait des cartes d'alimentation et des tickets. Et on nous attribuait un boucher, un épicier, un boulanger. On ne pouvait pas aller où on voulait. Il fallait aller là, là et là. Là, tous les mois, on prenait ce qu'il nous fallait pour le mois. Hein. Mais à Corté, tout ce qu'il y avait dans les magasins, il n'y avait pas. Pourquoi ? J'en sais rien. Alors que ma belle-sœur à Paris m'a dit plus tard qu'elles avaient tout. Il y avait du beurre, elles avaient du beurre. Il y avait du... Non, non. Peut-être qu'il fallait traverser la mer, que chacun se servait, les dockers, j'en sais rien. Je ne sais pas trop. En définitive, dans l'épicerie, on avait droit au café, au sucre, les pâtes. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Quelques légumes secs, des haricots, des lentilles, des trucs comme ça, voilà. Les rations étaient des rations de misère. Mon père allait prendre le café, le pain le matin. On avait droit à un petit bout de pain comme ça pour la journée. On était des adolescents. Mes frères avaient 15, 16 ans, 17 ans. Ils avaient faim. C'était... Le pain, on le mangeait au petit déjeuner. Après, il n'y avait plus. Hein. D'ailleurs, après la guerre, à la fin de la guerre, nous avons reçu des Américains. Ils sont venus avec deux cajous pleins de trucs, du pain. On s'est jeté dessus comme, je sais pas. Ils nous ont pris une photo que j'ai perdue, que j'ai regretté d'avoir perdue, sur la terrasse. On s'est tous mis là en rendez-vous, ils nous ont photographiés. On aurait dit des clochards. C'était, quand j'ai vu cette photo, moi, j'étais impressionnée. Habillée n'importe comment, maigre, alors, l'horreur. Nous étions... Nous avons traversé cette guerre, bon, avec des privations, vraiment. Ceux qui s'en sont sortis à peu près bien, pendant la guerre, je pense, ce sont ceux qui faisaient du marché noir, qui avaient les moyens, hein, de se payer de l'huile et du café et des machins. Ce n'était pas le cas de ma mère, puisqu'elle était veuve. Et, ou alors dans les villages, où ils faisaient beaucoup de jardins, de, voilà, des bêtes, des poules. Voilà. Nous, on n'avait pas tout ça. Après, je vous dis, la guerre, c'est que la ville que vous avez connue avant n'existe plus. Il n'y avait plus d'humanité. Il y a chacun pour soi. C'est de la survie. Et ça se voit. Moi, enfant, je le sentais, mais je le voyais. Je voyais ces gens. On a eu très peu de gens qui ont été humains. Parce que mon père est mort. Le prêtre est monté lui donner les derniers sacrements. D'accord ? Mais une fois qu'il a été mort en odeur de sainteté et tout, le prêtre n'est plus jamais monté voir ma mère pour dire « Mais vous avez besoin d'un bout de pain. » Jamais, plus, jamais.
Après la guerre, Santa embrasse, un peu malgré elle, une carrière d'enseignante.
Eh bien, j'ai fait l'institutrice. parce que ma vocation, c'était d'être médecin. Mais il y a eu un ratage important dans ma scolarité. À l'époque, en sixième, quand vous rentrez en sixième, les très bons éléments, on les mettait en A. A, c'était la section noble, latin grec, on mettait là les meilleurs. Oh, moi, j'étais matheuse, j'avais rien à foutre là dans le latin grec, rien. Mais on m'a mis là et je suis restée là. J'ai fait ma scolarité là et je me suis retrouvée avec un bac philo. Alors, comme je voulais être médecin, il fallait passer une année préparatoire pour passer un examen qui s'appelait le PCB. Je ne sais pas maintenant, ça correspond à quelque chose. Quand j'ai pris le programme du PCB, physique, chimie, biologie, c'est comme si j'avais du chinois devant moi. Je n'avais jamais fait ni physique, ni chimie, ni biologie, rien. Bon, j'ai abandonné ma vocation. Donc, à partir de là, bon, j'aurais été dans un milieu aisé, peut-être, me faire du rattrapage, mais avec une maman veuve sans revenu, et voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais faire? Là, j'ai fait ainsi, j'ai fait carrière. Après, j'ai été conseillère pédagogique, plus tard. J'ai fait comme un métier que je devais faire pour gagner ma vie, c'est tout. Mais mon cœur était ailleurs, c'est sûr.
Cette période si particulière de notre histoire a-t-elle changé les mentalités, modifié les relations humaines?
L'être humain est toujours l'être humain. Oh là là. Vous savez, l'homme de maintenant croit qu'il a changé. On n'a pas beaucoup changé des Romains, d'Attila et de machin. Non. L'être humain, il est ce qu'il est. Vous le voyez bien dans l'actualité. Il y a le bon et le mauvais, il y a le héros et le salaud. Vous avez maintenant des êtres fantastiques et vous avez Poutine. Donc, en quoi il a changé l'être humain? Avec des moyens différents, certes, mais je ne vois pas que l'être humain ait évolué. Pour régler un problème, on n'a jamais rien trouvé de mieux que de faire tuer des hommes. On se fait une petite guerre. Hein, vous trouvez qu'il y a une évolution bonne dans l'être humain? Moi, je trouve que c'est... L'être humain, fondamentalement, ne change pas. Ce qui change dans la société, c'est la technologie. Par exemple, les voitures. Moi, j'ai connu 100 voitures cordées, hein, d'accord. Et la voiture a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des objets qui ont changé la vie des humains. La voiture, les communications. Et à l'époque, il y avait même... Moi, j'ai connu les cordées sans téléphone. Les premiers téléphones que j'ai connus, c'est les cabines publiques. On savait quand même les nouvelles. On prenait, moi, je ne sais pas, dans la guerre, on prenait la TSF. On écoutait les infos, voilà. Moi... Le mieux, j'ai jamais compris ça. Beaucoup de gens de mon âge se tournent vers le passé en disant que c'était mieux. Je n'ai pas cette impression du tout. D'abord, je ne suis jamais tournée vers le passé. Ce que je raconte là, je ne raconte jamais à personne. Hein. Même pas à mes petits-enfants, ils ne savent rien de moi. Ça ne me passe pas par l'idée de parler du passé. Là, vous m'en faites parler, j'en parle. Mais moi, je vis dans l'instant présent, dans le moderne, dans ce que je vis. Et je trouve qu'il faut vivre dans le monde où on vit. Et voilà. Et le passé est passé. Et ça, c'est une réaction de vieux. Je ne suis pas jeune, mais... Les gens enjolivent leur passé. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Toujours avant. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'amitié. Avant, c'était le bonheur. C'est faux. C'est faux. Avant, il y avait des amis, il y avait des ennemis, ils s'entretuaient, ils se battaient, il y avait de tout. Nous, pendant la guerre, il y a eu des salopards qui ont profité de la guerre, mais à outrance, hein, qui se sont enrichis, qui ont... Où est le bonheur du passé? C'est comme... Moi, c'est ce que je porte pas très bien, aussi dans les villages. Ah, les villages, oh, la fraternité, le figadé, le fougon... Il se tassait pour un muret, pour... Ça a toujours été comme ça, hein, je vous dis.
À plus de 90 ans, quel regard porte-t-on sur la vieillesse, le temps qui passe inexorablement?
L'âge, c'est presque une projection mentale. Comment réaliser l'âge qu'on a? Vous voyez ce que je veux dire? On le sait que vous êtes jeune, si vous avez 20 ans, d'accord. Mais C'est difficile de réaliser les années que vous avez. La notion de l'âge est relative. Moi, je me souviens que j'avais une voisine qui avait, quand j'avais 20 ans, qui avait 80 ans, par là. Et des fois, quand elle venait, moi, à l'époque, j'habitais à côté de l'église, on entendait les cloches, et les cloches des morts. Alors, quand j'entendais les cloches des morts, elle venait, je disais, quoi qu'est morte? Alors, elle me disait, eh, c'est un tel, monsieur, machin, comme ça. Oh, moi, je disais, mais t'es vieux, ce type. Eh, alors, elle se scandalisait, mais il n'avait que 79 ans. Bon, mais moi, pour moi, c'était des vieillards, voilà, c'est relatif. Quand j'ai eu, moi, cet âge-là, j'ai compris que c'était pas si vieux que ça. L'âge physique, on le voit. Jusqu'à, comment vous dire, jusqu'à 50, 60 ans, on ne se rend pas compte. Ou alors, si on se rend compte, c'est un cheveu blanc, une ride, bon, des petits trucs. Et puis, il y a un moment où l'âge s'accélère. Le vieillissement s'accélère. Il y a une accélération du vieillissement. À partir de peut-être 75 ans, un truc comme ça. Voilà. À partir de 90, encore plus.
Et la vie de couple dans tout cela? La vie amoureuse en général, quelle place occupe-t-elle dans la vie de Santa?
Bon, c'était un ratage absolu. Je ne crois pas être un cas particulier. Hein, parce que, bon, quand je regarde autour de moi, les jeunes et les moins jeunes... Alors, il y a des couples qui ont tenu. À quel prix, j'en sais rien. L'amour n'a qu'un visage. Hein. Ah, vous aimez, vous aimez. L'amour, c'est la beauté de la vie. C'est l'enchantement de la vie. Vous savez que la création, les êtres vivants, le monde vivant, est menée par trois principes. Naître, procréer, mourir. C'est une sorte de trilogie qui est la base de tout ce qui vit. Tout ce qui naît est appelé à procréer et à mourir. La procréation étant le point clé. S'il n'y a pas de procréation, il n'y a plus de vie. Chez les êtres humains, c'est modifié par notre mental qui n'est pas le mental des animaux, un peu au-dessus, qui réfléchit, qui a conscience. Et donc, on a ces pulsions amoureuses, parce que quand vous tombez amoureux, vous tombez amoureux. Hein. Même s'il n'y a personne en face, elle est laide, moche et tout, vous la voyez merveilleuse. Bon, cette pulsion-là, c'est une pulsion de survie de l'espèce. Parce qu'il n'y avait pas cette pulsion, il y a longtemps que l'espèce humaine aurait disparu de la Terre. Hein. Ça, c'est sûr.
À cet âge, nous sentons-nous encore en phase avec les générations actuelles?
Mes enfants, quand ils me parlent, et si je m'avise de donner mon avis, oui, mais toi, c'était avant. Avant, c'est le Moyen-Âge. Avant eux, c'est le Moyen-Âge. C'est des trucs qui n'existent plus. Et comment ils interprètent les jeunes de maintenant le passé, je ne sais pas.
Les liens intergénérationnels étaient-ils plus forts avant?
Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus, peut-être. Parce que moi, j'ai vécu avec ma mère, ma grand-mère qui était avec nous. Vous êtes tellement pris par la vie. Quand vous avez 15 ans, 16 ans, vous êtes attiré par tellement plus de choses que les vieux, que le passé. Et je comprends. C'est après que je me suis intéressée à ma grand-mère. Ouais, plus.
Santa Pietri porte un regard lucide sur l'éducation des enfants, sur la transmission aux plus jeunes.
Je pense qu'on croit pouvoir changer les choses. Quand vous avez un enfant, vous pensez que vous allez lui donner de l'amour et en plus des valeurs, lui apprendre. On change très peu de choses. Vous transmettez, oui, bien sûr. Il y a la transmission, même ne fût-ce que par la vie avec, l'osmose, je sais pas moi. Mais un être humain qui vient, il va faire son trou tout seul, hein, souvent. La meilleure éducation qui soit, c'est de le laisser s'épanouir librement. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on essaie de lui inculquer quand même le respect de l'autre, le respect de la vie, le respect des règles, de la parole donnée. Je trouve que finalement, on est ce qu'on est et on vit ce qu'on est.
Quelle définition du bonheur peut-on donner après presque un siècle d'existence?
La notion de bonheur est très difficile à définir. Je ne sais pas moi quand c'est que j'ai été heureuse. Napoléon disait qu'il avait été heureux 2 ou 3 jours dans sa vie. Je crois que le bonheur, on le sait quand il est passé. Mais quand tu es heureux, est-ce qu'on s'en rend compte vraiment? C'est difficile, c'est une notion très difficile. Il y a des petits moments où on est parfaitement heureux. Il faut se faire dans la vie une espèce de philosophie de la vie. D'abord, c'est l'acceptation, il faut accepter. Il faut savoir accepter ce que vous avez, accepter ce que vous êtes. Et ce n'est pas facile d'accepter. Quand vous êtes dans l'acceptation, quand vous avez des soucis, des ennuis, des malheurs, dire j'accepte, c'est... Mais quand vous avez accepté, vous rentrez dans une espèce de paix de l'esprit, une espèce d'apaisement, si vous voulez, voilà.
quatre profils, c'était, croyait-on, l'assurance certaine de pouvoir dégager des transversales, des tendances, des grandes vérités qui auraient balayé toute une époque et toute une génération pour lui tirer le portrait. Au fil des rencontres, il a en réalité d'abord fallu tordre le cou à cette idée préconçue. La société dans laquelle ils sont nés n'était certes pas encore devenue celle de l'hyperconsommation et du divertissement de masse. Les sollicitations et les possibilités n'étaient pas celles d'aujourd'hui et pourtant, les existences et les parcours ne sont pas des copier-coller les uns des autres. Si l'idée de pire génération est subjective, elle est en tout cas celle du grand écart, pour ne pas dire de l'écartèlement. Élevée dans un cadre rigoureux qu'elle a vu se désagréger, passée de trop peu à trop d'eux, elle a accompagné un siècle particulièrement remuant. Aujourd'hui, forcément un peu déconnectée, elle n'en demeure pas moins une force témoin, postée comme en sentinelle aux portes d'un monde révolu qui a encore des choses à nous apprendre, si on lui prête l'oreille. Grand Angle, les reportages grand format du magazine QI. Ligne de vie, un reportage de Morgane Kilikin et Jean-Christophe Attard. Voix off, Jean-Christophe Madzone de la compagnie La Cible. Réalisation Jean-Christophe Attard pour l'agence Totem.